Radio 1, premier sur l'info.
Lundi 29 décembre, c'est parti pour le journal de la mi-journée. Antoine Samoyau, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Après un bon bilan 2014 sur les routes, les autorités de police et de gendarmerie ont déjà les yeux rivés sur 2015. On le verra dans ce journal avec une priorité sur la sécurité des deux roues. Plus que trois jours avant l'interdiction des vitres teintées, un sujet qui divise encore les professionnels et les autorités du pays, mais la nouvelle réglementation commencera de toute façon ce jeudi. Et enfin, on reçoit dans ce journal le docteur Patrice Gouy. Il viendra nous parler du don du sang, un sujet sensible en pleine épidémie de chikungunya.
Et on commence donc avec la sécurité routière. Les gendarmes annoncent qu'ils vont mettre la priorité sur les deux roues en 2015.
Après un bilan favorable cette année et un dernier week-end de 2014 plutôt calme sur les routes, les autorités ont décidé de ne pas relâcher leurs efforts. La cellule de prévention routière de la gendarmerie prépare déjà l'année prochaine. Elle compte insister tout particulièrement sur les conducteurs de deux roues, une catégorie de véhicules extrêmement accidentogènes et pour lesquels les conséquences des accidents sont souvent très graves, voire dramatiques. Les gendarmes insisteront notamment sur les contrôles des casques. Rappelons que pour un casque non homologué, une jugulaire non fermée ou encore l'absence totale de port du casque, l'amende est de 16 100 francs. Pourtant, une alternative plus préventive à cette sanction devrait également se généraliser l'année prochaine. Les conducteurs contrôlés avec des casques non homologués pourront faire régulariser la situation en changeant de casque. Ainsi, ils ne paieront pas d'amende pendant une période donnée contre la preuve qu'ils se seront bien équipés d'un nouveau casque. On écoute les précisions d'Olivier Faure, capitaine de la cellule de prévention routière à la gendarmerie. Il est interrogé par Vaïté Pambrun.
Si nous contrôlons des gens qui ont un casque non homologué, il pourra venir nous l'échanger et pendant ce temps-là, il ne paiera pas d'amende.
Et c'est quoi un casque homologué ?
Il y a juste une étiquette norme française ou norme européenne sur la jugulaire. À l'heure actuelle, les gens on les voit tous avec des casques de skateboard, des casques de vélo sur le bord de la route. Et aussi des casques qui ressemblent à un casque, mais qui est plus un casque de chantier. Donc on veut justement limiter les accidents à cause de ces casques-là, parce que les gens ne sont pas protégés du tout. Donc on voudrait qu'il y ait ici que des casques homologués.
En fait ici, c'est la sanction qui fait prendre conscience ou pas ?
Ben, je crois que la sanction fait prendre conscience. Alors donc il est évident que pendant 6 mois, grâce à Monsieur le procureur de la République, les gens pourront échanger leur casque. Et ils ne prendront pas d'amende. Et je veux aussi dire qu'on aura une deuxième partie, qui est le deuxième semestre 2015, où les gens pourront venir nous rapporter leur casque usagé ou leur casque non homologué, et on participera au rachat du casque, un nouveau casque, mais toujours un casque homologué. Alors donc je suis un petit peu en avance, mais c'est ce qui est prévu.
Autre combat de la gendarmerie en 2015, l'éclairage des deux roues. En effet, l'un des derniers faits divers mortels de Moréa il y a quelques jours avait été causé principalement par l'absence d'éclairage sur le scooter de la victime.
Nous veillerons à ce que tous les cyclomotoristes, que leur engin soit pourvu d'éclairage. Parce que fin novembre et début décembre, nous avons eu des accidents qui ont mis en cause des cyclomotoristes et nous avons déploré 2 morts à cause d'éclairages défectueux. Donc c'est le combat de 2015.
Dis-moi, le bon bilan que vous avez fait pour 2014, est-ce dû à la présence régulière des gendarmes sur la route ?
Effectivement, les contrôles multipliés des forces de l'ordre font que les gens effectivement prennent conscience aussi qu'ils peuvent être contrôlés à tout moment. Donc les gens maintenant peut-être aussi changent le comportement sur la route. Donc l'effort qui a été fait en 2014, fait par les compagnies de gendarmerie, se poursuivra en 2015. On a eu un bon bilan et je voudrais que ce bilan perdure. Même si on sait que nous sommes sur des chiffres hyper favorables, je voudrais qu'ils soient encore plus favorables en 2015. Si nous descendions le plus bas possible, on aura gagné une belle bataille.
Et on reste dans le domaine de la sécurité routière. Il ne reste plus que 3 jours avant l'interdiction des vitres teintées.
La nouvelle réglementation entre en vigueur jeudi, le 1er janvier. Alors l'interdiction concerne les vitres latérales avant, le pare-brise avant et la position de bandeau à effet miroir sur le pare-brise. Annoncée fin 2013, cette mesure avait provoqué un tollé chez les installateurs de vitres teintées, on s'en souvient. Les professionnels attendaient un assouplissement de la réglementation. Depuis, des discussions ont eu lieu entre la direction des transports terrestres et les professionnels. Pourtant, rien n'a évolué dans le sens de ces professionnels justement. Un temps évoqué, l'éventualité de la mise en place d'un appareil pour mesurer l'opacité des vitres est aujourd'hui abandonnée, ceci à cause de l'origine américaine de l'appareil en question. On écoute les explications de Jeffrey Hart, porte-parole des représentants des professionnels de vitres teintées. Il est au micro de Samia Stambouli.
Nous avons proposé un appareil de contrôle américain utilisé par les forces de l'ordre des États-Unis. Ils ont trouvé que c'était fiable, mais ça ne correspondait pas aux normes européennes. Ils nous ont demandé de trouver un appareil aux normes européennes, mais nous, qui sommes-nous, professionnels ici à Tahiti, pour demander au gouvernement européen quels appareils ils utilisent, et on n'a pas l'impression que eux, de leur côté, ils ont vraiment fait des efforts pour en trouver un.
On dénombre une dizaine de professionnels travaillant principalement sur la pose ou l'entretien des vitres teintées à Tahiti. Leur porte-parole craint pour leur avenir. Il dit avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires depuis l'annonce de la nouvelle réglementation.
C'est presque la mort de la profession. Jusqu'à présent, on n'a jamais caché que ça allait bouffer une bonne partie du chiffre d'affaires. On a pu mesurer une perte de chiffre d'affaires de 50%, qui est énorme. Certains d'entre nous avaient déjà prévu le coup, donc ils se sont un petit peu diversifiés en attendant que le gouvernement prenne une décision sage. Bon, c'est pas arrivé à ce qu'on voulait. On est obligé quand même de survivre dans ce contexte économique déjà morose. Et c'est pas facile. On avait quand même misé sur cette activité qui était rentable pour nous. Et aujourd'hui, on a toujours des charges qui n'ont pas changé, elles. Et on doit faire face en faisant autre chose. On installe des alarmes, des autoradios. Mais bon, on avait quand même une spécialité, c'était les vitres teintées. Et on perd beaucoup.
Rappelons que les conducteurs qui ne respecteront pas cette interdiction s'exposent à une amende de 8 100 francs, majorée à 21 450 francs, si elle n'est pas réglée dans les 45 jours.
Un mot d'économie maintenant avec le groupe chinois HNA qui est prêt à investir 40 milliards de francs en Polynésie.
Le groupe HNA, encore appelé groupe Hainan, est notamment propriétaire de la compagnie Hainan Airlines, de 550 établissements hôteliers et de plusieurs bateaux de croisière. La semaine dernière, une délégation du groupe s'est rendue en Polynésie, un déplacement qui faisait suite au voyage du ministre du Tourisme et de la Relance économique, Jean-Christophe Bouissou, en Chine en octobre dernier. Sur le terrain, les Chinois ont pu apprécier le potentiel de Bora Bora. Ils espèrent y investir dans des structures déjà existantes, ou par l'acquisition d'hôtels ou par une participation aux capitaux. Mais le voyage a aussi permis la première rencontre des représentants du groupe Hainan avec le président Edouard Fritsch. Tous se sont réunis à Moréa samedi pour y étudier la réalisation d'un complexe hôtelier et évoquer les perspectives d'un investissement à Atimaono. Écoutez le ministre Jean-Christophe Bouissou, il revient sur cette semaine porteuse d'espoir pour l'économie locale.
Les négociations avancent bien puisque nous allons transmettre au groupe HNA avant le 15 janvier le projet de protocole d'engagement entre la Polynésie et HNA. Nous attendons de ce groupe des investissements lourds qui doivent au moins atteindre les 40 milliards de francs, qui veut donc dire qu'un hôtel de 500 chambres, par exemple, 500 clés, pourrait satisfaire ce point important pour nous. Et ce groupe attend de la Polynésie une visibilité sur ses investissements. Lorsque je parle de visibilité, il s'agit bien entendu de pouvoir amortir dans le temps les investissements en question et puis aussi d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de ces activités économiques. Nous sommes très contents avec le président, la manière dont ces discussions se tiennent et il était important pour M. Tan de rencontrer physiquement Edouard Fritsch et de sentir que la Polynésie est au rendez-vous. Sur ces investissements qui sont aussi importants, bien sûr, pour le groupe HNA.
Jean-Christophe Bouissou qui était interrogé par Samia Stambouli.
Un sujet santé et un appel au don du sang en pleine épidémie de chikungunya.
Et oui, depuis plusieurs semaines, le centre de transfusion sanguine de l'hôpital de Taoné lance un appel aux donneurs volontaires. L'épidémie de chikungunya rend les dons moins nombreux malgré une demande constante. Alors je reçois aujourd'hui le médecin en charge de la collecte des dons du sang au centre de transfusion, le docteur Patrice Gouy. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, on le disait, nous sommes en pleine épidémie de chikungunya. Est-ce que c'est l'épidémie qui provoque une baisse des donneurs ou une augmentation des besoins ?
Non, il n'y a pas d'augmentation des besoins, mais c'est l'épidémie qui diminue le nombre de donneurs potentiels, car on ne peut pas donner son sang quand on est malade, et pendant 28 jours encore après la fin des symptômes.
D'accord, donc on ne peut pas donner son sang lorsqu'on a contracté déjà le virus du chikungunya.
Tout à fait.
Plus généralement, qui peut donner son sang ?
Toute personne âgée de 18 ans à 70 ans. En bonne santé, qui pèse au moins 50 kilos. Et donc les antécédents principaux sont éliminés au cours d'un entretien avec le médecin.
D'accord, très bien. De façon pratique, ça fonctionne comment ? Est-ce qu'il y a des heures auxquelles il convient mieux de venir ? Est-ce qu'il faut être à jeun ?
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 15h jusqu'à 14h le vendredi. Il ne faut pas être à jeun, il vaut mieux avoir pris son petit déjeuner ou avoir déjeuné avant de venir.
Très bien. On dit que ça fatigue un petit peu en général. Est-ce qu'il y a des heures qui sont préférables pour ça? Est-ce qu'il faut éviter de travailler dans la journée quand on vient ou est-ce que c'est totalement compatible?
Mais après le don, nous recommandons aux donneurs de ne pas faire d'efforts physiques importants pendant les 12 heures qui suivent, mais ils peuvent retourner en général au travail, sauf ceux qui sont exposés, comme les gens qui sont sur des échafaudages, les conducteurs de trucks ou les pilotes, les postes à risque.
Très bien. Alors ça prend combien de temps et qu'est-ce qu'on prélève exactement ?
Donc c'est au total entre l'enregistrement, l'entretien et le don qui lui-même dure 10 à 15 minutes, ça prend une trentaine de minutes plus 10 à 15 minutes après le don pour surveiller le donneur pendant qu'il prend une collation. On prélève chez les hommes 480 millilitres de sang, presque un demi-litre, un peu moins chez les femmes, de sang total. Et ce sang ensuite pourra être extrait les plaquettes, le plasma qui n'est pas utilisé ici et les globules rouges surtout.
Est-ce qu'il y a beaucoup de donneurs en Polynésie?
Oui, nous avons beaucoup de donneurs, environ 25 000 donneurs. Certains viennent régulièrement, spontanément. Un homme peut donner 6 fois dans l'année, une femme 4 fois seulement. Et les autres, nous les voyons en collecte mobile, nous nous déplaçons. Et certains, nous les appelons et nous leur demandons de venir au centre. Donc effectivement, actuellement, nous ne faisons pas de collecte mobile, donc nous appelons les donneurs à venir plutôt sur place au centre de transfusion sanguine à l'hôpital du Taonnet, toujours aux mêmes horaires, surtout aujourd'hui, demain et encore mercredi, parce que jeudi, c'est un jour férié et c'est un jour important pour nous. Nous avons besoin de globules rouges, mais aussi de plaquettes en permanence.
Très bien, docteur Gouy, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt.
Et on termine ce journal avec une information un petit peu plus légère. Le Tahitien Alexis Kata est toujours en lice dans l'émission Nouvelle Star.
Le jeune homme de 20 ans, originaire de Paea, continue doucement mais sûrement son aventure dans l'émission de la chaîne D8. Jeudi dernier, Alexis s'est qualifié pour l'épreuve des trios au théâtre à Paris. Lors de son premier passage à Marseille, il avait dû s'y reprendre deux fois pour mettre tout le monde d'accord. Dans la capitale, la semaine dernière, Alexis a confirmé son statut de coup de cœur de la chanteuse et membre du jury Élodie Frégé avec son interprétation de La Lettre de Ronan Luce. Pour Radio 1, Alexis Kata s'est confié sur son parcours. Il est revenu sur son étape du théâtre la semaine dernière. Il a évoqué un moment spécial, qui n'avait jamais chanté au micro. Il est joint par Samia Stambouli, on l'écoute.
En fait, sur les lignes, c'est quelque chose de spécial, parce que ben, j'étais jamais monté sur scène, j'avais jamais chanté avec un micro, pas comment expliquer. Même si on est ici avec 100 candidats devant nous, c'est quand même 100 personnes, et ben, j'avais jamais vraiment chanté devant 100 personnes, et c'est une expérience de fou, quoi. Depuis tout petit, déjà, je regarde cette émission, j'ai toujours aimé la musique, et je me suis dit pourquoi pas. Enfin, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, j'ai vraiment envie de, c'est pas comment expliquer la popularité ou quoi, ça m'intéresse pas, c'est plus montrer aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette émission, c'est je voulais montrer aux gens de quoi j'étais capable et transmettre tout ce que je peux transmettre en fait avec de la musique, j'ai envie de le transmettre.
Alors, Alexis Kata continuera-t-il l'aventure Nouvelle Star? Réponse dans l'émission diffusée sur D8 via TNS ou disponible en replay. Une petite indiscrétion, il chantera en trio avec deux autres candidats sur le tube de Stromae, Papa Outé.